Étudiée sur la longue durée, l'immigration algérienne participe d'une histoire double. Celle de l'Algérie, pays fournisseur de la main-d'œuvre, et celle de la France, dont elle devient une composante de son histoire démographique, sociale, politique, militaire et culturelle. Cette histoire de l'immigration algérienne en France s'offre à nous selon une double approche. L'écriture proprement dite de cette histoire, depuis la fin du XIXe siècle, 1898, quand elle devient ouvrière, structurelle, permanente et qu'elle s'inscrit dans la chaîne des autres immigrations européennes, italiennes, polonaises, etc. L'étude de la population algérienne et de ses enfants depuis 1974, quand l'immigration de travail prend fin, l'approche devient alors sociologique, avec comme axe central de la recherche les problèmes posés par son intégration dans la société française. En bref, une histoire totale de la migration algérienne sur un siècle, 1898-1998. Histoire démographique, sociale, culturelle, religieuse et politique, replacée dans celle des autres immigrations, avec sa spécificité, mais considérée surtout comme la composante d'une histoire mixte franco-algérienne. Car, suivant l'historien Gérard Noiriel, on ne peut plus considérer l'immigration comme un problème extérieur, mais on doit le voir comme un problème interne à la société française contemporaine. Or, l'immigration ayant fait l'objet de divers travaux, pourquoi une étude nouvelle sur l'immigration et comment peut-on justifier une telle recherche, Jacques Simon, historien, fondateur et président du CREAC, Centre de recherche et d'études sur l'Algérie contemporaine, et auteur, je le précise, de l'ouvrage « L'immigration algérienne en France ». Autrement dit, pourquoi faire des années 1890 le moment initial et significatif de cette histoire alors que les Algériens circulent en France depuis le Second Empire, c'est-à-dire depuis 1871, et que la plupart des historiens démarrent l'étude de la migration algérienne en 1920 lorsqu'elle est organisée, réglementée et quantifiable.
L'immigration algérienne a commencé dès au lendemain même de la conquête, c'est-à-dire dès 1830, 1831, etc. On voit les premiers colporteurs, les convoyeurs, les débardeurs, et surtout ce sont des Kabyles qui franchissent la Méditerranée, qui s'installent à Marseille. Alors ensuite, on retrouve cette population, ces migrants, on les retrouve dans le Midi-Languedoc. Notamment, ils participent à la saison agricole et vinicole. On les trouve aussi dans les stations balnéaires et les villes d'eau. Bon, d'autres Algériens se retrouvent dans l'armée, par exemple. Vous savez que le premier régiment de Zouave va commencer dès décembre 1830. C'est-à-dire quelques mois après la conquête, on a déjà les premiers régiments de Zouave. Zouave, c'est Zouawa, c'est-à-dire déjà des volontaires kabyles. Ça, c'est une chose intéressante. On les retrouve dans les spahis et à ce moment-là, on les appelle les Turcos. Et on retrouve, quand on étudie les archives de l'armée, on retrouve que ces Turcos ont participé aux guerres de Napoléon III, en Italie, en Crimée, je ne les ai pas retrouvés au Mexique, mais en dehors de ça, toutes les guerres, on retrouve des régiments de Turcos. Alors tout ça se passe pendant la période donc qui va de 1830 jusqu'à le Second Empire. Et pendant le Second Empire, à partir de 1871, il va se produire quelque chose d'important. C'est que, d'une part, il y a la guerre entre la France et l'Allemagne et qui a été perdue par la France. D'autre part, simultanément, il y a l'écrasement de l'insurrection de Kabylie de 1871 qui a été suivie par le séquestre des meilleures terres et des lourdes amendes. Donc, de ce point de vue, la Kabylie, qui avait une relative autonomie dans l'Algérie de la conquête, se trouve complètement intégrée dans un pays qui a changé aussi de caractère puisqu'il est devenu capitaliste. Et alors à ce moment-là, donc la société traditionnelle algérienne après 1871 se retrouve complètement bouleversée. En même temps que la France cette fois-ci, et là aussi il y a un changement, c'est que la France a besoin, qui a perdu la défaite de 70 a été quelque chose de pénible dans la mesure, de très dur dans la mesure où elle a été suivie aussi par l'écrasement de la Commune de Paris. Et les Versaillais, donc, et ensuite, donc, une véritable guerre civile en France. Et d'un autre côté, Il a fallu, la France est amputée donc de l'Alsace et de la Lorraine, c'est-à-dire deux départements importants, et là, il y a un véritable traumatisme psychologique qui a été opéré. C'est-à-dire qu'il y a une seule idée, c'est de récupérer l'Alsace-la-Lorraine, on retrouve ça dans tous les manuels scolaires. Récupérer l'Alsace-Lorraine, ça signifie, bien sûr, recommencer une guerre de revanche contre l'Allemagne. Et faire une guerre de revanche, ça veut dire avoir des soldats, avoir du territoire, avoir des matières premières et avoir aussi une industrie qui soit de type moderne. Et donc on voit, sous la Troisième République, on voit se développer une industrialisation très forte, en même temps que c'est à partir de là que l'Algérie va occuper une place tout à fait différente dans le système de la préparation de la guerre de revanche. C'est-à-dire que d'une part, il va y avoir la volonté d'assimiler les Européens qui sont en Algérie, et donc il va y avoir les lois, par exemple, de 1889, après le décret Crémieux, qui va assimiler tous les Européens qui étaient là. Par contre, pour les musulmans, il va y avoir, au contraire, on a besoin de, finalement, l'Algérie, c'est uniquement les matières premières, et c'est les soldats. Et donc, de ce point de vue, les soldats, ce sont les Algériens, les musulmans, et il s'agit non seulement de ne pas leur donner tous les droits, les moindres droits, mais en plus, c'est dans cette période qu'il y a une tentative, plus qu'une tentative, il y a une assimilation de l'Algérie à la France à tous les niveaux. C'est-à-dire c'est là où on fait les impôts arabes, c'est là où il y a le code de l'indigénat, c'est-à-dire qu'il y a un renforcement de la répression et la volonté d'assimiler à tous les niveaux.
C'était un temps où j'avais toute l'énergie de la planète, tellement t'as donné, et les portes fermées maintenant, la fatigue sur mon dos fait naître un sentiment d'éloignement étrangère, c'est étrangère. Les épiciers des étrangères rangent leurs affaires de solitaire, les senteurs centenaires, les épices d'hier évoquent la galère, des sentiments d'éloignement étrangère, c'est étrangère, à tes soucis et tes amis, à ton pays que je suis. La vie de ma mère, la vie de ma mère que je préfère rester en enfer qu'être en fer, comme ton cœur fermé au courant d'air, ras la mer, des sentiments d'éloignement étrangère, c'est étrangère, à ton pays, à tes soucis, à tes amis que je suis.
Alors, l'Algérie va donc jouer un rôle très important dans cette préparation de la guerre, à la fois sur le plan militaire, puisque c'est là où il y a la formation d'une armée d'Afrique. Elle joue un rôle important en tant que fournisseur de matières premières. Elle joue un rôle important aussi au point de vue des infrastructures. Et en même temps que la politique de la France en Méditerranée s'est se construit avec l'alliance notamment anglo-franco-russe, elle s'établit à partir du moment où l'Algérie devient le pivot, en quelque sorte, de la clé de voûte de l'Empire français dans l'ensemble de l'Afrique et de la Méditerranée. Donc voilà, ça, c'est des points importants qu'il faut préciser.
C'est un rôle stratégique, finalement. L'Algérie a un rôle stratégique.
Un rôle non seulement stratégique, mais ça nous permet de comprendre, dans cette période, pourquoi l'Algérie devient profondément intégrée, partie prenante, en définitive, des institutions de la vie sociale, politique et culturelle. Pour pouvoir faire la guerre de revanche, il faut considérer l'Algérie comme un prolongement du territoire français. Et ça, ça va être très important, c'est qu'on va comprendre pourquoi la guerre d'Algérie, par la suite, va être aussi féroce. C'est que c'est vraiment toute l'identité, en quelque sorte, française. Le rôle que la France, elle avait en Méditerranée, comme elle avait dans le monde, qui était nécessité par, justement, cette clé de voûte qui était finalement l'Algérie.
رمزون دي ظليم مديب وجر التلام يشرق الغربي الطقيم يذرمون يزمير ألام يذرمون يزمير ألام يكثر يضيع غردو أي مورد صغرام
الفرح ضميم قرار أتغم تفثيل تهي الحارة ثني ضي اسمي دلولا عذو نرغ بغينا الفرح ضميم قرار أتغم تفثيل تهي الحارة
J'ai dit dans un premier temps qu'au départ, on a une immigration saisonnière, une immigration qui est faite par des colporteurs qui vont, ou saisonnières, c'est-à-dire qui s'occupent uniquement des céréales. Et après 1871, dans le cadre de la préparation de la guerre, c'est quelque chose de différent. On a besoin d'une industrialisation très forte pour faire la parité avec l'Allemagne sur le plan militaire. Et donc, à partir de ce moment-là, on a fait appel à une immigration. La France est un pays d'immigration depuis le Second Empire. Alors, c'est une immigration au départ des pays limitrophes. C'est-à-dire, il y a des Anglais, il y a des Allemands, il y a des Belges, il y a des Suisses. Ça, c'est le nord de l'Europe, population qu'on avait l'habitude, etc. Et qui travaille dans les mines, dans les chantiers, etc.
Donc, le terme immigration, finalement, c'est un terme qui est beaucoup plus ancien que,
oui,
qu'on pourrait le supposer.
La France est un pays d'immigration complètement à partir de la seconde moitié du 19e.
D'accord.
L'immigration est très forte pour deux raisons d'ailleurs. C'est que la paysannerie, la petite paysannerie, elle est très, très installée.
Oui.
Puis par ailleurs, comme le pouvoir politique, il est entre les mains des notables, donc de ce point de vue, ils évitent l'exode rural. Parce qu'en plus, ils ont très peur du prolétariat, parce que ce prolétariat en France, il est particulièrement agité et combatif. On s'est tapé la révolution de 1830, la révolution de 48, la commune de Paris. Donc, les paysans, on les laisse sur place. Donc, on va chercher les étrangers. On va chercher les immigrés, là où il y a une main-d'œuvre qui est intéressante, donc qui est disponible, c'est-à-dire les pays du nord de l'Europe. Mais, ces gens qui viennent, ils s'assimilent assez rapidement. Puis on a toujours besoin d'une nouvelle main-d'œuvre. Donc cette fois-ci, on va descendre la barre, c'est-à-dire on va aller les chercher un peu plus bas. Et on fait venir les Italiens. Après, ce sera les Polonais. Mais là, on fait venir les Italiens. Et les Italiens arrivent dans les mines, dans les usines, dans les trucs, dans les régions donc industrielles. Mais ces Italiens, ils font comme les autres, c'est-à-dire ils commencent à s'organiser. C'est plus une main-d'œuvre taillable et corvéable.
Voilà.
Et comme aussi, à la fin du siècle, il y a la CGT. Qui a été créé en 1895 et qui a un mouvement ouvrier qui se développe, etc., eh bien, les Italiens, ils s'installent, ils s'inscrivent à la CGT. Et quand il y a des grèves, ils font les grèves. Donc, c'est pas bon. Alors, on va aller chercher une autre main-d'œuvre. Et il se trouve qu'on a une main-d'œuvre qui est intéressante. C'est cette main-d'œuvre kabyle. On l'a repérée en Algérie, mais en Algérie, il n'y a pas trop de mines. Mais par contre, on les a vues dans les mines de Tunisie. Et ils ont joué un rôle important dans l'installation des mines de phosphate, dans la mise sur pied des chemins de fer, etc. Ah, ils sont intéressants.
Oui.
Donc les patrons, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, cette main-d'œuvre-là de Tunisie, de Kabyle, qui est déjà formée, disons, dans l'industrie moderne, eh bien, on va l'implanter dans le Nord, dans les mines du Nord. Et on les implante, c'est là où on les voit apparaître, également dans la sidérurgie de Lorraine. Et on les voit apparaître aussi dans le, comme on a besoin de terrassiers, etc., dans le métro parisien. Donc, cette main-d'œuvre-là, c'est plus la main-d'œuvre d'avant. C'est plus une main-d'œuvre qui était saisonnière, une main-d'œuvre qui était occasionnelle, où on venait de temps en temps, on vendait des tapis, etc. Cette fois-ci, c'est une main-d'œuvre industrielle. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire de la fin des années 90, on a en voir affaire à une main-d'œuvre algérienne qui est une main-d'œuvre de travailleurs qui vont dans les régions industrielles, dans les mines, dans la sidérurgie et dans la région parisienne. Et donc cette immigration va changer de nature. C'est plus la même que la précédente. Cette fois-ci, c'est une immigration de type ouvrier, de prolétarienne. Donc à ce moment-là, on a pensé que il était important de considérer, comme par la suite, l'immigration sera surtout une immigration ouvrière. Donc on a trouvé le fondement de notre centenaire à partir du moment où l'immigration algérienne n'est plus une immigration de bergers, une immigration de travailleurs saisonniers agricoles, mais quand ça devient une immigration de travail de type moderne. Donc c'est là l'origine du centenaire. Et donc ça se trouve dans les années, là où on a repéré, c'est les années de la fin des années 90. Comme on a terminé notre recherche à la fin des années 90 également. Donc ça s'appelait un centenaire. Donc il y a un fondement en centenaire dans cette histoire de la main-d'œuvre. Donc ce que je disais tout à l'heure en aparté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une relation directe entre l'expropriation de la Kabylie, la transformation des structures, etc., mais il y a aussi un processus historique. C'est-à-dire les Kabyles viennent, les Algériens viennent dans l'industrie moderne à partir du moment où il y a, bien sûr, les transformations économiques. Quand l'Algérie est profondément intégrée dans tous les circuits industriel, dans l'armée de travail, dans l'armée d'Afrique et dans qu'elle joue un rôle important dans la diplomatie, mais elle intervient finalement à partir du moment où, y compris, les ouvriers italiens, la main-d'œuvre, etc., commencent à s'organiser et donc elle arrive comme une immigration de même type que l'immigration italienne. Donc elle rentre à la fois. C'est une immigration un peu spécifique, parce qu'elle a son histoire. Et en même temps, c'est une immigration qui s'inscrit dans la chaîne des autres immigrations. Immigration allemande, immigration suisse et immigration italienne.
Immigration, justement, des Kabyles, comment est-elle perçue par les autres immigrations, notamment l'immigration italienne, qui, elle, s'organise à des revendications beaucoup plus rationalisées, on va dire.
Alors, cette immigration, bien entendu, d'abord, elle est un peu spécifique, cette immigration, parce que d'abord, bon, j'ai dit qu'elle était à dominante Kabyle, pratiquement, il n'y a que des Kabyles, ça c'est sûr. Parce que c'est la main-d'œuvre qui est finalement la plus mobile, et celle qui vient des villages, donc qui est organisée.
D'accord, oui.
Donc, de ce point de vue-là, il y a
des raisons précises à ça, oui.
Bon. D'autre part, alors, dans la région parisienne, on fait appel constamment à cette main-d'œuvre, c'est le bâtiment, les travaux publics, il y a les industries chimiques, il y a les raffineries de sucre C. Il y a les compagnies des omnibus, il y a les chemins de fer, il y a le métro, etc., etc. Donc ils viennent dans ces régions, mais ils viennent pas en tant qu'individus. Ils viennent de façon organisée. C'est-à-dire que le départ des travailleurs en France se fait de façon par des réunions du comité de village qui désignent un tel et un tel, généralement le mari avant qu'il parte, comme ça on est sûr qu'il va revenir.
Oui.
Mais quand il arrive en France, de l'autre côté de la Méditerranée, il est pris en charge par des gens de son village, et il est dans les entreprises où il connaît tout le monde. C'est-à-dire que peu à peu, il y a en quelque sorte un déplacement, un transfert en quelque sorte de fractions de la population de Kabyle, de tel village, telle région, etc., qu'on identifie parfaitement par des cartes et qu'on retrouve finalement donc dans la région parisienne, dans le nord et dans l'est, à Marseille et un peu à Lyon. C'est-à-dire que là, peu à peu, va se créer une immigration de type très particulier. Cette immigration, elle est bien accueillie en France, d'après tous les rapports qu'on a pu consulter. Elle se substitue à la main-d'œuvre. Elle remplace un peu la main-d'œuvre qui était étrangère, sans la concurrencer, puisque au fur et à mesure, il y a une élévation. C'est-à-dire, les nationaux ne sont pas, comme le dit le rapport, les nationaux ne sont pas du tout concurrencés par cette main-d'œuvre. Et en même temps, c'est une main-d'œuvre qui est très appréciée parce que les ouvriers kabyles vivent en bons termes avec leurs camarades français, etc., etc. Donc, elle est bien accueillie avant 1914. Alors donc, ce qu'on peut dire donc, en conclusion, c'est que cette immigration, elle a déjà une histoire. Elle est liée au fait fondamentalement que l'Algérie est intégrée complètement dans la France pour préparer la guerre de revanche. Ça, il faut bien garder ça dans l'esprit. Et à partir de ce moment-là, les Kabyles deviennent, quand ils viennent en France, ils sont aussi des éléments très importants dans cette stratégie que je viens de développer.
Est-ce que ce n'est pas lié à une spécificité culturelle du Kabyle ? Parce qu'on l'entend aujourd'hui, quand on parle du Kabyle, c'est beaucoup lié à un concept de laïcité, de démocratie, ou quelque chose qui appartiendrait finalement à leur culture propre.
À cette étape, la laïcité, la démocratie, etc., ils sont toujours, quand ils arrivent en France, c'est le code de l'indigène. Donc ils n'ont aucun statut. Ce sont des indigènes, donc ils sont taillables et corvéables à merci, comme ils viennent de départements français, de provinces françaises, mais ils ont le statut d'indigène. N'oublions pas, donc ils n'ont pas accès finalement à tous les droits, à tous les droits sociaux et à l'application finalement de toute la législation en termes de travail. Cela dit, elle s'applique un peu aussi. Par exemple, la législation sur l'hygiène va s'appliquer finalement quand les Algériens travaillent avec les autres. Donc de ce point de vue aussi, ils vont bénéficier d'un certain... À la veille de la guerre de 14, donc il y a une immigration qui est importante, et cette immigration va former, moi, ce que j'ai appelé une matrice, c'est-à-dire une structure très originale. Elle est une structure socio-culturelle. C'est-à-dire qu'il y a les membres de cette structure sont à la fois rattachés au pays d'origine, ils gardent des liens, ils se regroupent par village, par région. Ils vont construire des réseaux de solidarité entre eux Et en même temps, ils gardent leur tradition culinaire, leur tradition religieuse, leur tradition culturelle, etc. Et en même temps, ils se créent des centres sur lesquels des cadres structurants de cette immigration que sont les cafés, hôtels, restaurants. Donc on a affaire à une immigration très particulière. Et cette immigration, cette matrice, elle a cette structure socio-culturelle, elle a un triple caractère. D'une part, par son existence, elle va faciliter l'intégration des Kabyles dans le travail et la société. Parce qu'on va leur trouver un travail, on va leur trouver finalement, présente un tel qui, etc. Oui. Ils apportent une caution. Bon, ça c'est important. C'est ce qui les différencie avec la tradition des autres immigrations. D'autre part, on maintient le lien avec le pays d'origine. C'est-à-dire que, à chaque fois, on adapte dans cette matrice les traditions. C'est une transplantation, en quelque sorte, des habitudes qu'il y a dans le village. Par exemple, on trouve des confréries. Oui. On peut être membre, par exemple, y compris quand ils vont rentrer dans la CGT, ils seront membres de la CGT, mais ils feront partie aussi du comité de village, ils feront partie de la confrérie des Rahmaniyya, etc.
Les Zawiyya, c'est ce qu'on appelle les Zawiyya aujourd'hui.
Ou des Zawiyya, qui font partie, les Zawiyya, c'est les structures d'une confrérie. Donc, de ce point de vue, on a ce caractère, ce double caractère, en quelque sorte. La matrice va faciliter l'intégration, en particulier au niveau du travail. Quand il y a des chômeurs, ils sont pris en charge par la structure villageoise. Et d'un autre côté, ils fabriquent, en France, ils vont fabriquer des structures dans lesquelles l'identité algérienne va s'élargir, va pouvoir se développer, va pouvoir se construire une autre immigration à l'intérieur qui va s'enrichir des, aussi des valeurs culturelles de la société française et du monde du travail. Donc, de ce point de vue, c'est quelque chose, une structure originale qui va exister. Et on comprend pourquoi cette matrice, donc, le caractère et l'importance de cette matrice, parce que c'est à partir de là qu'on va voir naître et germer l'identité algérienne, puis le mouvement national algérien. Donc, ça, c'est une histoire qu'il fallait mettre en évidence pour essayer de comprendre la spécificité de cette immigration avant la guerre de 1914. Alors, donc, parce que généralement, on considère que l'immigration, elle est intéressante après 1920. Généralement, on dit, oui, avant 1914, il y en avait quelques-uns qui étaient là, etc. Mais tandis que ce travail-là, et on a mis du temps pour le comprendre, c'est-à-dire qu'on avait véritablement cette structure originale qui est extrêmement intéressante, donc parce qu'elle va, c'est le cadre dans lequel vont se greffer et se modifier et se créer des nouveaux personnages dirigeants, en quelque sorte, des nouvelles élites, qui sont à la fois différenciées du pays, mais qui en même temps, finalement, sont reconnues, et donc il va y avoir aussi des codes intérieurs qui vont fonctionner pour cette matrice. Il va y avoir ce qui est licite, ce qui n'est pas licite, pour savoir les relations avec les femmes, par exemple. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une compagne ou pas une compagne? Les pratiques de l'islam vont s'adapter. Donc, peu à peu, on a quelque sorte, dans l'immigration, et cette immigration ouvrière va s'imprégner des traditions culturelles et des traditions du mouvement ouvrier, puisqu'on vit là-dedans, des traditions communales, et donc il y a déjà, en quelque sorte, une amorce, un processus contradictoire d'intégration et de fabrication de l'identité, d'une identité qui n'est déjà plus l'identité villageoise, clanique, confrérique, etc., qui est déjà une autre identité parce qu'elle se nourrit des valeurs et du contexte de la vie sociale et de la vie politique. من وحش الحباب هاج افكاري وفرق ومطالع علي كي نتفكرهم تشعل ناري وين راكم يا ولدي من وحش الحباب هاجوا فكاري وفرقوا طال عليا كي نتفكر
كروم تشعل ناري وين راكم يا ولدي تغربت عليكم وخليت داري ودموعي سايلة قوية جرحات خدودي وبصاري يا ربي يا علي حن علي j'aime toutes les villes un peu plus Paris لكن ماشي كوم الجيري كوم لبنان ونحبها في لهبان فين نكون ما ننساها الجي الجي شحال نحبها كي نكون بعيد نتفكرك اولا بلانش قلبي بلان دو تريستاس ما ينساكش ان غفانش وي تي بلاس دي غوفرنمان مع عمره بحبابي لو نكون غريب بلان دو تومان غير نتفكرها جو سوري جام توت لي فيل ان بو بلوس باري لكن ماشي كوم الجيري كوم لبان ونحبها في لهبان فين نكون ما ننساها الجي الجي شحال نحبها كوم أبولي فوانا من حبها دانسون سانك بروي ما وبابا De son soleil, je ne puis me passer. Depuis mon enfance, ne j'irai dans ces rues sans me lasser. Qalbi, qalbi, en était pris. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. Lakin machi, comme l'Algérie. Comme elle est belle. ونحبها في الهبال وخدو لور دي موند ما نفارقها الجي الجي شحال نحبها بوكو دو جون جون يروحو الى رغريت واحد يدوس والاخر خلى والديه دان كو دو تيت كيف يكونوا بعيد يعرفوا القيمه وي تي مون بير وين راك يا يما Mon cœur vous appelle, il est meurtri J'aime toutes les villes, un peu plus Paris لكن ماشي كوم الجيري كوم لي بال ونحبها في لهبال لور دو موند ما نفارقها الجي الجي شحال نحبها
Alors pendant la guerre de 14, eh bien la guerre de 14 va consolider cette structure, ce moule, parce que dans la première phase, bon, les plusieurs régiments algériens qui sont en encadrement européen vont être engagés dans la guerre, mais après, on pensait que la guerre allait être courte. Mais après les sanglantes batailles de 1915-1916, là, cette fois-ci, on appelle tout le monde. Alors avant, il y avait un livret. Alors c'est très drôle, parce qu'avant, il fallait passer un certificat médical pour pouvoir venir en France. Là, maintenant, tout le monde est bon. Et on recrute pratiquement, on recrute tout le monde. Alors donc, en 1916, il y a les Nord-Africains qui arrivent massivement en France, plus de 150 000 travailleurs. Dont 78 556 Algériens et 250 000 soldats, dont 175 000 Algériens. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la population était considérée comme 4 millions ou 4 millions 5, c'est-à-dire pratiquement tous les mâles. De 18 à 40 ans, ils ont été, sauf ceux qui étaient estropiés ou qui ne pouvaient pas tenir un fusil, qui ont été embarqués dans la guerre. Et ça, c'est très important. Ils ont été embarqués, bien sûr, sur le front, mais ils ont été aussi employés dans les secteurs les plus importants d'un appareil de production. Et d'un appareil de production et de la défense nationale, c'est-à-dire les établissements de matériel de guerre et de munitions, les services du génie, de l'aéronautique, les transports, les mines, les chantiers, etc. etc. Et alors là, c'est là où il y a un problème. C'est que jusque-là, cette main-d'œuvre constituée de bergers ou constituée de gens qui étaient analphabètes, la quasi-totalité était analphabète. Et d'un seul coup, on va les transplanter dans des usines comme l'aéronautique. Et alors là, c'est très important ce qui s'est produit, c'est-à-dire que pour pouvoir les intégrer, il a fallu modifier l'appareil de production. Et alors qu'avant, c'était un système des industries où il y avait pratiquement des personnes qui faisaient une partie importante de la fabrication de l'objet, cette fois-ci, on est obligé de parcelliser les tâches, c'est-à-dire d'installer le système Taylor.
Oui.
Et à partir de là, il est possible d'embrigader les femmes, puisque tous les hommes sont partis sur le front, donc il y a un afflux de main-d'œuvre féminine et même enfantine. Et les immigrés, mais il y avait aussi des Indochinois, etc., on les met là-dedans parce qu'on est obligé de changer. C'est-à-dire que ça peut être paradoxal, mais ce sont les ouvriers, les analphabètes, les colonisés finalement, qui ont imposé la modernisation de l'appareil de production, précisément parce qu'ils étaient analphabètes. Ça paraît quelque chose d'assez étonnant, mais c'est comme ça que c'est dans les secteurs où il y a eu cette main-d'œuvre venue des pays coloniaux qu'il y a eu finalement la modernisation de l'outil de travail. Et sans cette modernisation, on n'aurait pas eu après la guerre le développement de l'aéronautique et de l'automobile et d'autres industries, les camions, etc. etc. Donc ça, c'est un point, quand on dit les Algériens ont construit la France, voilà un exemple très précis de fabrication de la France par des gens qui n'avaient pas de statut, qui n'avaient pas du tout le statut de citoyen français. Donc ça, c'est un point important. Et à cette époque-là, aussi bien dans les usines qu'à la guerre, il y a une considération pour cette population. C'est-à-dire d'abord, on la découvre. Dans les usines, on se disait, tiens, les Algériens, c'était très lointain, on les voyait avec des chevaux, on les voyait avec des... Bon, on ne savait pas exactement, il y avait que des images folklore.
Oui.
Bon, là, à ce moment-là, on voit des gens, concrètement, qui manient les outils, qui sont habillés comme les autres, etc. Et il y a un certain respect pendant cette période de la guerre. C'est-à-dire les fêtes musulmanes sont célébrées. On les respecte avec un certain faste. Il y a des mariages mixtes. Il y a, sur le plan des salaires, progressivement, quand on regarde du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de 1914 à 1918, on s'aperçoit que on se rapproche des salaires, disons, des ouvriers, des autres ouvriers. Donc une amélioration. Il y a des facilités pour l'accession au logement. Il y a aussi la participation restreinte, mais quand même à la vie publique, à la vie municipale.
Oui.
Donc il y a aussi ce processus d'intégration qui se fait, mais sans modifier le caractère de la matrice dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il y a en quelque sorte, et le fait que les Algériens sentent qu'en France, il y a une situation qui est différente du régime colonial, donc il y a aussi une modification des mentalités.
Mmh.
C'est-à-dire on se rend compte que la France n'est pas tout à fait l'Algérie. Et qu'il n'y a pas le mépris, il n'y a pas les bachagas, il n'y a pas les gens qui faisaient la loi comme ils l'entendaient, etc. C'est-à-dire que d'une certaine façon, le code de l'indigénat qui régissait les Algériens et qui permettait finalement l'arbitraire le plus total dans tous les domaines, les impôts arbitraires, etc. Chacun garde son pète, il faisait la loi comme il voulait. Eh bien là, c'est différent. Il y a des règles du jeu, finalement, qui concernent aussi bien les Français que aussi les Algériens. Et là, donc, ça fait comprendre que, finalement, le statut, c'est pas les Français qui sont méchants. C'est pas les Français qui sont haïssables. D'autant qu'il y a souvent des mariages mixtes, etc. On les voit, on souffre comme eux, on vit avec eux, on meurt comme eux, avec eux. C'est un système qui est le système colonial. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a toute une maturation qui se fait dans la mentalité des gens, de tous les Algériens qui sont venus en France, qui sont passés par l'école de la guerre ou par l'école de l'usine, et bien entendu, ça va changer quand ils retournent au pays. Parce que après 1918, quand la guerre est finie, hop, on envoie tout le monde au pays. il reste très très peu d'Algériens, ceux qui sont regroupés autour des cafés, des restaurants, des hôtels, etc. Il en reste très peu. Tout le reste rentre au pays.
الدروح نروح ثابني سقري فسر